Allô, non, ça marche, oui. Bonjour, bonjour. On est sous le charme, voilà, on est... Alors, Hervé, tu me passes ta montre, s'il te plaît. Tu me repasses ta montre. Donc, ceux qui veulent aller faire pipi, etc., c'est maintenant ou jamais, puisqu'il n'y aura pas de pause. On s'associe à la... Merci, on s'associe à la conclusion de Michèle Petit pour vous remercier, effectivement, pour le travail qu'elle a si bien mis en valeur et qui est votre quotidien. Voilà, moi je la remercie encore vraiment chaleureusement. Je vous conseille ces deux livres. Donc, l'art, moi je dis toujours l'art de résister, mais c'est l'art de lire, mais ça doit vouloir dire un peu la même chose, voilà. Et puis celui-ci... Alors, et comme ça va ? Et l'autre livre qui s'appelle « Une enfance au pays des livres » qui est un livre bouleversant où vous allez retrouver cette rigueur du raisonnement et en même temps cette ouverture, cette chaleur et cette qualité d'écriture. Voilà, donc encore merci Michel vraiment beaucoup pour cette intervention. D'autant plus qu'elle a accepté de réduire son intervention de moitié pour que l'on puisse maintenant... oh là là, Rosepad. On puisse intervenir donc avec Bernard Friot et Hervé Moello, à la fois à partir de ce qu'a dit Michel, et puis aussi à ce qui les agite, personnellement. Alors, pour le timing... à 11h20-25, vous aurez la parole, donc gardez des petites questions. Si vous êtes trop timide, vous les faites passer par là sous forme de papier, on essaiera de les relayer. Je terminerai par un poème à la fin, il y en aura pour 3 minutes. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une petite heure, c'est ça, hein, il est, voilà, pour... Voilà. Donc, on va y aller, alors... On peut lancer le débat. Est-ce que déjà vous voulez réagir? Alors on peut soit reprendre ce qu'Hervé et Bernard ont dit tout à l'heure, à savoir ce qui peut paraître provocant, c'est-à-dire cette non-focalisation sur la littérature qu'a très bien décrit Michel sur ces passages entre des formes d'art et des formes de lecture différentes, soit revenir sur ce que Michel a dit, c'est-à-dire ces déplacements qu'elle n'a pas arrêté de faire depuis le début sur des idées reçues. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut prendre la parole ou...
J'ai envie d'illustrer simplement avec des exemples pris dans le contexte culturel français, un certain nombre de réflexions de Michel, les poursuivre à ma façon. Je voudrais par exemple reprendre le dernier point qu'elle a abordé en parlant de multiplier les passages entre la lecture et d'autres pratiques. Je voudrais aussi dire qu'il faut multiplier les passages entre diverses pratiques de lecture. Parce qu'on ne s'adresse pas à des enfants qui sont hors de la lecture. Ils y sont plus ou moins proches, mais ils ont des pratiques de lecture. Et il existe des pratiques de lecture familiale extrêmement contrastées, quel que soit le milieu. Il faut faire très attention à notre vision sociologique, parce que la macro-sociologie donne... évidemment une vision de la réalité, mais quand on s'adresse à des individus, c'est beaucoup plus complexe. Je me permets de faire référence au livre de Bernard Lahire, Tableau de famille. Le sociologue a cherché à comprendre pourquoi des enfants de même niveau social réussissaient ou non à l'école, et en particulier par rapport en lecture, par rapport aux compétences de lecture. Et il est allé voir dans les familles et a montré que, j'allais dire, sur le même palier du même immeuble, on pouvait avoir des familles qui ont des rapports extrêmement divers à la lecture. C'est un des aspects. Un autre aspect, c'est qu'il peut y avoir une grande distorsion entre les pratiques de lecture familiale et celles instaurées par l'école et la bibliothèque. Ça se voit déjà dans les livres qui sont échangés, qui sont présents à l'école. Et pour beaucoup d'enfants, il n'y a pas de passage entre ces pratiques. Et parce que les livres ne sont pas les mêmes, parce que le discours sur la lecture ne sont pas les mêmes, parce que ce qui est vécu, et ça je crois que c'est essentiel dans le, la présentation de Michel, c'est ce qui est vécu qui est important et pas ce qui est dit. Donc ce qui est vécu dans la lecture est totalement différent. Et alors, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'apport dans ce cas-là de la bibliothèque, de l'école ou de nous, si on ignore ces pratiques. Des exemples précis. J'interroge beaucoup depuis un certain temps les enfants. Quand je fais des rencontres dans les écoles, j'ai voulu casser le rapport. C'est pas l'écrivain qui vient et qui raconte sa vie, auquel on demande combien tu as écrit de livres, combien ceci, combien cela et combien cela. Mais je leur demande d'apporter un écrit. Je dis bien un écrit, journal, texte, livre, etc., auquel ils sont attachés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi d'une manière très négative. Et ce qui m'apparaît toujours, la première chose qui m'apparaît, c'est que quand ils apportent des livres, 9 fois sur 10, c'est des livres que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, parce qu'ils n'appartiennent pas au circuit auquel moi j'ai accès. Ce ne sont pas des livres des librairies, ce ne sont pas des livres des bibliothèques, ce sont beaucoup des livres des grandes surfaces, etc. Et je découvre des éditeurs que je n'ai jamais vus. Mais pas seulement, bien sûr, il n'y a pas que ces types de livres. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que ces livres ont une histoire de transmission. Ils viennent de quelqu'un. Et s'ils viennent de quelqu'un, ils viennent d'une histoire familiale. Une histoire qui peut être récente, une histoire qui peut être plus ancienne. C'est un vieux Tintin, mais qui a été celui que le père a lu lorsqu'il était petit, et ce Tintin où il est encore dans la bibliothèque de la grand-mère. Donc à travers ce livre, il y a tout un lien qui se crée. C'est un volume d'une série complètement inconnue de moi, une série sur les chats d'un éditeur que je ne connais pas, qui a été offert par le copain de la tante à la petite fille. C'est un livre d'adolescente apportée par une enfant de 8 ans qui lui a été mise en dépôt par sa sœur aînée qui est maintenant lycéenne et qui, pour faire de la place dans sa bibliothèque, a déposé ses livres de collégienne dans la chambre de sa petite sœur, mais sans les lui donner. C'est juste un dépôt et cet enfant se nourrit de ce dépôt-là, parce qu'en même temps, bien entendu, elle se projette sur sa grande sœur, elle se projette aussi, je veux dire, sur sa vie future de lectrice en puisant dans ce trésor. C'est le livre apporté par une petite fille qui est un livre de cuisine, des recettes sur la panna cotta, hein, et qui est truffé de post-it écrits en italien qui sont des commentaires sur les recettes. Ci vorrebbe un po' più di gelatina. Il faudrait un peu plus de gélatine. Était collé. Le livre était en français. Hein. Et c'est un livre qui est dans le tiroir de la cuisine. C'est le plus beau livre du monde, me dit la petite fille. C'est un gros livre épais apporté par une préadolescente de 11 ans, un livre girly, absolument répugnant pour avec plein, pas pour tout le monde, mais avec des cœurs roses fluorescents, qui lui a été offert par l'adolescente de 16 ans qui l'accompagne dans son travail scolaire. Hein, les parents sont commerçants, il y a besoin de quelqu'un qui l'aide, et m'a expliqué cette préadolescente, c'est le premier gros livre qu'elle a lu. Parce que cette jeune fille lui a dit, ça suffit maintenant, là, des petits livres, hein, tu peux lire davantage. Et elle a choisi ce livre, et ce livre a fonctionné grâce à cette relation, mais aussi, je veux dire, grâce à ce projet pédagogique transmis de manière habile, heureuse, parce qu'il y a une relation qui est. Voilà, je veux dire, tout. C'est ça qui compte, c'est ces histoires qui comptent, et si on les ignore, si on ne cherche pas, Michel a parlé de transmission comme des moments d'échange et de dialogue, si on n'assure pas la circulation de ces pratiques de lecture qui se fait à travers la circulation de ces livres aussi, de ces textes aussi. Je pourrais vous raconter aussi l'histoire de celui qui collectionnait les Spirou. Voilà. Mais si ça, ce n'est pas, si ça, ça n'est pas assuré, alors la transmission, elle n'est jamais à sens unique. Je veux dire, on ne peut pas, faire circuler dans ces canaux qui existent les livres que l'on propose si on les ignore, ces canaux.
Mais j'ai encore rien dit. Moi, j'étais sensible dans la conférence à ce moment où les témoignages disent la manière dont la lecture vient se glisser dans l'expérience. Hein, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie du travail. Et certains psychologues du travail font une distinction très importante entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est le contremaître, le chef de service, le manager, comme on dit maintenant, qui va dire ce qu'il faut faire et qui écrit ce qu'il faut faire. Et le travail réel, c'est ce que l'exécutant fait, ce qui n'est jamais écrit, ce qui n'est pas de l'ordre de l'écriture, ce qui est de l'ordre de la gestuelle, de l'ordre de l'intelligence du geste, de l'intelligence du travail. Et, disent les psychologues, le travail réel n'est jamais le travail prescrit. Ce qui fait que les prescripteurs ne savent jamais véritablement ce que font réellement les travailleurs, on va dire. Et inversement, les travailleurs vont toujours dissimuler la totalité de ce qu'ils font vraiment. Donc il y a un dialogue compliqué, il y a des malentendus, il y a des dissimulations, il y a aussi des rapprochements, mais il y a des difficultés. Si on considère la lecture comme un travail, c'est intéressant de faire le parallèle. C'est-à-dire que vous pourrez toujours prescrire, la lecture réelle ne sera jamais totalement ce qu'on a prescrit. Il y aura des dialogues, il y aura une porosité, il y aura des échanges, mais le lecteur fera toujours son travail à lui. Et on a parlé un petit peu, vous avez parlé un peu de clandestinité, je crois, enfin, moi, c'est un mot que j'aime bien, la notion de lecteur clandestin, c'est-à-dire que le lecteur ne lit jamais ce qu'on voudrait qu'il lise. Alors, les parents, les grands-parents et les intervenants médiateurs le savent. Les enfants ne lisent jamais ce qu'il faut. Et ils lisent jamais comme il faut. Il y a toujours une définition en négatif du lecteur qui aura beau faire, de toute façon, ce ne sera jamais assez. Et en plus, il faudrait qu'ils comprennent bien ce qu'ils lisent, et il faudrait qu'ils l'interprètent, il faudrait qu'ils fassent des références culturelles. Évidemment que c'est une exigence tellement forte qu'il y a une grande marge de manœuvre, une grande marge d'apprentissage aussi, ce qui est drôlement intéressant, mais il n'y arrivera jamais, en fait. Et c'est ça, moi, j'aime bien entrer dans la lecture par cette pratique réelle, en se disant, de toute façon, on est dans une lecture qu'on pourrait dire, sans exagérer, une lecture illégitime, une lecture qui n'arrive jamais au degré de l'exigence qu'on veut en avoir, parce que la lecture est devenue aujourd'hui un tel objet, une telle pratique complexe qu'on est dans un, on n'y arrive jamais, on est toujours dans un apprentissage. C'est Goethe, je crois, qui dit que on apprend toujours à lire jusqu'à la fin de sa vie et qu'on n'aura jamais vraiment totalement appris à lire. Donc il y a dans la situation de l'enfance une situation qui est forcément une situation difficile, une situation qui fait qu'on n'y arrivera jamais. Dans cette idée de parcours de lecteur, moi je travaille beaucoup sur la notion d'histoire de lecteur, qui est issue d'un travail qu'Ivan connaît bien, parce qu'on avait travaillé avec un des auteurs il y a quelques années, Bernard Pudal, qui travaille sur le parallèle entre le parcours biographique et le parcours bibliographique, en se demandant, et c'est quelque chose qu'on peut se demander, moi je fais beaucoup ça dans les formations, demander à chacun de porter un regard sur sa propre bibliothèque, mais pas bibliothèque physique, c'est-à-dire bibliothèque intérieure, c'est-à-dire une bibliothèque, ça commence par un livre, ça commence par une bande dessinée, ça commence peut-être par un livre aussi, un livre de prière, par un livre hérité de sa grand-mère, vous voyez, c'est ça. Et comment, en fait, au cours d'une existence, on se fait on est plus ou moins accompagné par les écrits. Genre, je dis les écrits et pas les livres, parce qu'il n'y a pas que les livres dans ces histoires de lecteurs. Et c'est intéressant de voir la manière dont que devenir lecteur, c'est aussi évoluer dans la vie avec des périodes de lecture et des périodes de non-lecture aussi. La notion d'histoire de lecteur met aussi en avant le fait qu'on a des chocs biographiques, il y a des ruptures amoureuses, des ruptures professionnelles, des ruptures de santé aussi, qui fait qu'on va arrêter de lire, ou bien au contraire, on va se mettre à lire sur une période plus intense. Et donc, la lecture n'est pas un fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il y a aussi des arrêts, il y a des redémarrages, il y a des crises, il y a des régressions, il y a des progrès, et donc tout ça est très complexe. Et c'est intéressant d'appréhender la médiation avec des enfants de ce point de vue-là, de se dire que les enfants, tout de suite, ils sont en train de démarrer leur histoire de lecteur. Et donc, moi, mon souci, c'est de voir comment, chez chaque enfant, on va repérer un intérêt personnel qui est de l'ordre de d'une biographie qui est en train de se construire, et comment arriver à accompagner les enfants, non pas dans un moment de lecture, dans un simple moment de rencontre, mais aussi de se dire que c'est quelque chose qui peut prendre une place, une petite pierre qui va prendre place dans un itinéraire de lecteur. C'est quelque chose de compliqué, mais psychologiquement, c'est intéressant aussi de se dire qu'on peut comprendre pourquoi des enfants ne sont pas intéressés par la lecture, parce que ça leur parle pas de leur vie. Donc si on part de ça, on peut appréhender la lecture un peu différemment, et on peut se dire qu'il faut savoir trouver les livres qui vont être dans la dynamique d'un flux biographique et qui vont permettre à des enfants de se dire « Tiens, c'est marrant, ce qu'il y a dans ce livre, ça a un rapport avec ma vie. » Et c'est dans cette condition-là qu'on peut devenir lecteur. L'inverse est tout à fait compréhensible. Moi, on peut absolument comprendre que lorsque les livres ne vous parlent pas de ce que vous êtes en train de vivre, quand vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans, que vous préfériez aller jouer au football ou aller courir après les filles, ou bien faire comme Anton, d'essayer de faire des grandes maisons pour que les filles vous regardent.
Juste avant de te donner la parole, Michel, j'entends bien ce qui vient de se dire là, c'est-à-dire une imposition d'une certaine manière, d'un point de vue de lecteur, sur certaines lectures légitimes qui seraient meilleures que d'autres. Vous avez dit tout à l'heure, tous les deux, vous vous êtes démarqués de cette position. On peut dire que cette imposition de lecteur, elle vient un peu, je vais mettre des gros mots, contre la macrosociologie, des classes dominantes, qui ont donc élu une lecture légitime et qui pensent qu'on doit lire de cette façon-là. Et vous opposez, ou en tous les cas, vous apportez à ça des pratiques que tu appelles clandestines, Hervé, ou qu'on appelle singulières, etc., dont il ne faut pas oublier quand même qu'elles viennent aussi d'une contrainte sociale. Enfin, je veux dire que ces pratiques qui sont dans des milieux pauvres, elles sont contraintes par des rapports de domination, et que c'est pas par... Enfin, je veux dire, comment on évite le relativisme culturel ? C'est-à-dire que moi, je comprends bien la môme qui amène un livre et qui dit « c'est ma sœur qui me l'a donné, elle me l'a posé », etc. Moi, je suis grand-mère lectrice depuis peu. Ma mère a offert au début à ma petite-fille qui venait de naître, c'est une vengeance. Enfin, je comprends bien les histoires, mais vous racontez que des histoires douces. Il y a quand même des histoires dures entre les humains. Elle lui a offert tous les Martine de Casterman en tout petit, et avec, je veux dire, en tout petit et réécrit. C'est-à-dire que Martine, maintenant, elle a un portable, etc. C'était même pas la version originale. Donc, comment enfin, vous avez tous eu des citations, tous les trois, vous avez eu des citations, personne n'a cité l'annuaire du téléphone, ou etc. C'est-à-dire, vous avez des citations de Goethe, vous avez des citations de poètes dont on a tout de suite envie d'aller lire ce qu'ils disent. Vous possédez cette culture, et vous la possédez très bien, puisque vous pouvez vous targuer, c'est pas méprisant par rapport à vous, vous pouvez vous targuer d'être finalement hyper décontracté par rapport à toute pratique, mais vous l'avez, la culture légitime. Et donc la question que moi je pose à ça, c'est comment les gens qui sont ici, on se dit, comme le dit Christian Bruel, on veut offrir la crème de la crème. Moi, j'ai mis longtemps à acquérir la culture, très longtemps, et maintenant que je l'ai, j'entends des gens qui me disent que je fais partie maintenant des dominants qui méprisent les pratiques populaires. C'est volontairement... voilà. Donc, voilà.
On a déjà parlé de toutes sortes de choses, c'est parti un peu dans tous les sens, donc je ne sais pas, je vais rebondir sur... Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc, je voudrais juste réagir en écho à certaines choses qui ont été dites. Hervé, vous disiez, vous avez cité cette phrase, ça a rapport avec ma vie, que quelqu'un trouve des textes, ça a rapport avec ma vie. La question compliquée, mais aussi intéressante, c'est que ce rapport avec la vie, il n'est pas forcément là où on le pense. Et que souvent, on va s'imaginer que si on donne à ces enfants ou à ces adolescents des livres miroirs de leur situation, ça va faire qu'ils vont peut-être plus les approprier. Et parfois, ça peut marcher. Mais parfois aussi, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et j'ai en tête un exemple. Alors là, c'est d'un lettré, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres milieux aussi. Kenzaburo Oe, l'écrivain japonais, il dit que quand il était jeune, il habitait dans un village et il cherchait quelque chose... une littérature qui parle de ce qu'il vivait, qui parlait du village dans lequel il vivait, et qu'à ce moment-là, les littératures japonaises ne parlaient que du lieu qui faisait la guerre et de Tokyo, et qui ne trouvait rien. Et il dit j'ai trouvé ce que je cherchais en lisant Rabelais. Alors voilà, l'œuvre qui lui parlait de son village japonais, c'était Rabelais. Et ça m'est resté parce que c'était un beau souvenir, un bel exemple, mais j'ai retrouvé des choses comme ça, tout à fait surprenantes. Tout à fait insolite, où des gens disaient, moi, là, je me suis trouvé, c'était vraiment moi. Et des gens de tous milieux sociaux qui disaient ça. Et un livre où personne n'aurait jamais pu penser que c'était ça qui allait parler à ce jeune homme ou à cette jeune femme. Donc, il y a quelque chose de savoir effectivement que... Savoir accueillir des pratiques spontanées, comme vous le disiez, Bernard, savoir quelquefois... imaginer ce qui pourrait avoir rapport à leur vie, ça ne veut pas dire les enfermer, les assigner à la case départ, ça ne veut pas dire les enfermer. Et je crois qu'on peut être de la même façon avec c'est la même question pour les cultures d'origine. Moi, il me semble que quand on travaille avec des gens dont la famille est venue d'autres terres, d'autres pays, et sachant justement qu'il peut y avoir des résistances dans la famille à ce qu'on s'approprie la langue de celui qui est quand même le dominant, c'est toujours bien et peut-être même le minimum d'hospitalité que d'accueillir non seulement des livres qui viennent de la maison, mais des récits ou des contes que vont pouvoir transmettre les parents, ou de mettre dans une bibliothèque ou dans une sélection d'ouvrages quelques livres qui montrent une reconnaissance de la culture de ces personnes, qui disent une reconnaissance de ça. Ça ne veut pas dire les enfermer dans la culture d'origine. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout à fait offrir... mais je ne sais pas, c'est absolument comme la jeune Argentine dont je parlais tout à l'heure, à qui sa mère racontait l'histoire de l'oncle Oreste, l'histoire de... voilà. Et puis Alice au Pays des Merveilles, et puis le roi David. Donc c'est l'un et l'autre, ce n'est pas forcément uniquement... Je t'enferme pas dans ta famille, je t'enferme pas dans ton milieu. Je reconnais et je respecte et j'admire même certaines choses de ta culture, de ton milieu. Je lui donne place dans la collection d'ouvrages choisis, ou dans l'espace de la bibliothèque, ou dans l'espace de mon cœur, de tout ce qu'on veut, mais y a aussi, c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un contre l'autre, enfin, il me semble.
Oui, je veux bien, moi, essayer de, par rapport à cette distinction entre différentes lectures, peut-être essayer de sortir de pas faire une transparence totale avec la notion de classe dominante, classe dominée, parce que c'est pas exactement ça. On trouve notamment dans les lectures un peu classiques, ou enfin la question des Martines par exemple se retrouve aussi beaucoup dans certains milieux dits privilégiés. On a des lectures extrêmement anciennes, dans la Comtesse de Ségur qu'on dénonce un petit peu, mais qui revient à la mode. Enfin moi je pense pas forcément à cette distinction-là. Je pense plus à ce que fait je vais encore refaire une citation. C'est un homme important qui s'appelle Jacques Bouvresse, qui est un philosophe des sciences et qui essaye de dire que, en fait, Jacques Bouvresse ne dénonce absolument pas la littérature. C'est quelqu'un de très attaché aussi autant à la littérature qu'aux sciences. Mais il dénonce en fait l'abus de l'usage de la littérature dans la pensée aujourd'hui. Hein, et il dit notamment que les intellectuels qui sont très médiatisés ou les penseurs qui passent beaucoup dans les médias parlent ou utilisent les sciences en étant complètement... En ne connaissant pas les sciences, en ne connaissant pas les mathématiques, en ne connaissant pas les sciences physiques, en ne connaissant pas la chimie. Et il donne des exemples très précis de Régis Debray, par exemple, ou de Michel Serres, ou de Bernard-Henri Lévy, qui utilisent les sciences comme de la poésie dans leur argumentation de penseur. Et il dit, il y a un abus des belles lettres dans la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une formation très littéraire qui pensent de manière un peu absolue, et ils parlent de littérarisme, hein, pour opposer au scientisme. Quand on a dit à un moment donné, quand on abuse des sciences, on a parlé de scientisme. Lui, il dit, il y a un abus de la littérature, c'est une manière d'utiliser la littérature de manière un petit peu exagérée. Et à un autre moment, il dit aussi, en utilisant des réflexions d'historiens, que le rapport à la littérature frise parfois le réflexe religieux. Hein, alors c'est intéressant, il dit par exemple qu'il y a, quand on écoute les discours sur la littérature, il est beaucoup question de spiritualité, de la mission de l'artiste, du refuge de l'âme, des manières de se sauver soi-même, de l'enchantement, de ravissement, de mythologie de l'art, de conversion aussi. Et il dit, c'est un discours emprunté à la religion. Hein, et il dit, il y a une tendance à parler de la littérature comme quelque chose qui serait un petit peu, avec une tendance un peu mystique dans une société très très laïcisée. Peut-être qu'il y a comme ça une espèce de transfert sur l'art en général et sur la littérature en général. Donc moi j'aime bien cette position, mais en se disant c'est une question de maîtrise peut-être et de contrôle de soi, de se dire que quand on parle de lecture, on n'est pas obligé de faire tout converger vers une espèce de dénouement littéraire qui serait un petit peu, vous voyez, qui monte un petit peu de manière un peu pas christique, mais vous voyez, comme si c'était la lecture absolue, vous voyez, en se disant aussi que quand on porte ça envers des enfants, comme vous le disiez aussi, c'est très très lourd et ça peut faire effet de repoussoir aussi, hein. Donc je pense que il y a des pratiques de lecture littéraire qui sont très intéressantes et qu'il ne faut pas dénoncer de manière brutale et absolue, mais dont il faut peut-être se dire que c'est une pratique de lecture parmi d'autres, hein, et qu'il y a d'autres pratiques de lecture qu'on explore peu parce que la pratique littéraire est présentée comme un modèle un petit peu, ou comme quelque chose auquel il faudrait aboutir. Donc c'est peut-être ce qui nous empêche d'explorer d'autres manières de lire, différentes, et je ne dis pas plus modestes, hein, différentes, alternatives, oui, plus clandestines, et qui sont aussi intéressantes, y compris dans leur dialogue avec la lecture de la littérature.
Je te donne la parole tout de suite. Moi, j'entends bien ce que vous dites, à savoir que ne pas enfermer trop vite les explorations des enfants qui sont en train d'explorer, y compris en voyant les adultes ressentir les choses et pas forcément les pratiquer. Moi, j'ai bien aimé cette partie. Il faut faire attention après. Bon, on a un public ici qui est en train, à qui on dit, hein, je crois avoir entendu ça à Lire et Faire Lire, qu'il faut choisir, il faut des choix exigeants, qu'il faut des œuvres denses. Tu en parles beaucoup dans ton texte, dans ton livre. Après, il nous reste une demi-heure pour sortir les gens de peut-être un malaise qui pourrait s'installer, faire ce que Bourdieu appelle, quand Bourdieu dit, quand on dit des choses un peu trop vite et contraire à ce qu'on avait l'habitude de penser ou contre ce qu'on pensait être venu faire ici, à savoir lire de la littérature, on les met au milieu du guet. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Donc je crois que le risque, ça serait qu'on se dise, bon, bah, alors moi, c'est fini, je ne lis plus de littérature, je vais prendre des post-it ou des trucs comme ça. Et en même temps, ils ne sont pas encore assez armés pour pouvoir faire autre chose. Donc je crois qu'il faut que maintenant, dans la demi-heure qui reste, on a entendu la critique, et moi je trouve que c'est bien qu'elle soit venue, mais maintenant il faut réarmer les gens pour ne pas les laisser démunis.
Alors, tout à fait. Alors moi, je dirais une chose très simple. Soyez devant les enfants que vous rencontrez les lecteurs que vous êtes, complets, avec votre histoire. Et je recite Bernard Lahire. Bernard Lahire a mené avec une équipe une grande enquête sur les pratiques culturelles. Et la première chose qu'on voit, c'est que tout le monde a des pratiques culturelles hétérogènes. C'est-à-dire qu'on peut être un fan de musique contemporaine et adorer lire la littérature de gare en même temps. Et en tant que lecteur, on est ça. On ne lit pas que de la littérature parce qu'on ne mange pas que de la truffe. C'est pas possible. Hein? On a tous... Alors, je ne sais pas si c'est de la régression, hein, mais à certains moments, on ouvre une boîte de ravioli, Buitoni. Hein, et on y a du plaisir. Et...
Buitoni, quand même.
N'importe quoi, c'est la seule marque que je connais. Et le goût de la truffe, je veux dire, se distingue et se forme en mangeant aussi de la purée mousseline. Dans le contraste. Et parce que ça répond aussi à des besoins différents. Donc soyez qui vous êtes entre lecteurs, parce que la rencontre, c'est d'abord et avant tout une rencontre avec un lecteur, avec une personne, avec son histoire par rapport à la lecture. Montrez les livres que vous lisez maintenant, pas seulement les livres que vous lisez avec les adultes, avec les enfants. Montrez les livres que vous avez lus, les écrits aussi. Si vous lisez Rustica, apportez-le, montrez-le. Parce que, encore une fois, ce n'est pas vos discours, c'est vos pratiques qui comptent. Et ce qui est important, c'est votre diversité. Votre singularité. L'enfant rencontre un lecteur et il peut s'identifier ou non à ce lecteur. Ce qui va compter, c'est qu'il rencontre des lecteurs différents. Et plus il rencontrera de lecteurs différents, plus il aura la chance de pouvoir s'identifier à un de ces lecteurs. Et ça me semble, j'allais dire, encore plus important que le choix du livre. C'est cette diversité des approches et on parle dialogue, réseau, transmission. Encore.
Oui, oui. Moi, par rapport à ce que vous disiez, Hervé, c'est tout à fait certain que les intellectuels, en général, en France en tout cas, ont très peu de culture scientifique. Et que, ceci dit, moi, il me semble que ce qui domine maintenant, actuellement, depuis 10-15 ans, c'est, parmi les élites, ce n'est pas forcément une culture très littéraire. Et que le discours sur la littérature sacrée, etc., etc., je ne suis pas... sûr qu'il tienne tellement d'importance. Je le sens moins prégnant qu'avant. Et puis, j'ai plutôt l'impression que les élites actuelles, je ne suis pas convaincue que la culture littéraire soit vraiment leur kiff. Mais bon. Mais bon, je voulais revenir là encore sur ce que vous disiez par rapport à la science, parce que. À nouveau, je vais dire qu'il n'y a pas forcément contradiction. Quand vous parliez, je me souvenais d'un garçon au Brésil qui anime des ateliers un peu partout dans le Brésil. Il va là-bas, lui, son truc, c'est l'astronomie. Et donc, partout où il va, il emporte un planétarium gonflable et puis une lunette. Et puis, avant toute chose, il demande aux gens de leur raconter comment ils se représentent le ciel. Est-ce qu'ils ont des légendes, est-ce qu'ils ont des mythes? Et puis il leur raconte, je vais vous raconter comment les toupies guarani se représentent le ciel, et puis il raconte les mythes des toupies guarani, et comment les Chinois, etc., ou les Grecs anciens. Et puis maintenant, je vais vous raconter comment moi, qui suis un scientifique du 21e siècle, je me représente le ciel. Et puis donc, il commence à leur expliquer son point de vue, et à leur faire visiter le planétarium, et à leur faire regarder les choses avec une lunette. Et je me souviens d'une jeune Brésilienne qui, après son intervention, avait dit « Moi, je suis étonnée, je ne savais pas que des hommes étaient allés dans la Lune. Mon père m'avait toujours dit que Saint-Georges habitait dans la Lune. » Et elle m'a raconté ça des années après en souriant. Elle continue à être très curieuse de l'astronomie. Et ce qui me semble important, c'est que pour cette jeune femme qui s'appelait Renata, eh bien, le ciel était très peuplé maintenant, et la lune était très peuplée, et son père y conversait avec Armstrong, quoi, je dirais. Et ça pouvait être, là encore, c'est la science et les mythes avaient participé d'une même présentation poétique et intellectuelle du monde. Et donc, ça pouvait contribuer à enchanter le monde, mais c'est pas forcément enchanter le monde, c'est pas forcément quelque chose qui est du côté du sacré, avec tout ce que ça a de lourd comme connotation religieuse, voilà.
Merci. Oui, moi, dans mon travail au Centre Lecture-Écriture à Nantes, moi, je dis toujours qu'on essaye de s'occuper plus des lecteurs que des livres, hein, et plus de la lecture que des textes. Alors, le problème, c'est que je ne suis pas tout seul à y travailler, et que même mes collègues sont un petit peu... sont pas toujours d'accord avec moi. Je vois bien qu'ils sont souvent happés par la profusion aussi dans la littérature de jeunesse, et ça n'empêche pas qu'évidemment on se nourrit beaucoup de ce qui paraît, mais il paraît quand même trop de livres. Il y a quand même un problème, parce qu'on est quand même noyé, et les professionnels du livre sont les premiers à le dire, hein, qu'il y a une vraie crise de surproduction qui est assez inquiétante. C'est une parenthèse. Moi, ce qui m'intéresse dans les animations avec les enfants et dans les formations aussi des médiateurs que vous êtes, à lire et faire lire, j'en fais pas mal à Nantes, et j'en parlerai plus dans mon atelier cet après-midi, c'est effectivement, comme dit Bernard, c'est venir en tant que lecteur. Moi, j'ai pas mal appris en travaillant avec Ivan, je réutilise beaucoup la notion de communauté de lecteurs. Hein, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire, c'est cette idée que si on apprenait à lire et qu'on n'aurait personne à qui parler de la lecture, on aurait raison d'arrêter de lire. Hein, c'est-à-dire que l'apprentissage de la lecture, ce n'est pas qu'un rapport clos entre un être humain et un texte. Ça, c'est la vision romantique qu'on veut donner de la lecture, le lecteur qui s'isole dans son alcôve, qui va réfléchir à lui-même. C'est évidemment aussi ça, mais c'est un lecteur s'inscrit toujours dans une communauté de lecteurs, y compris si elle n'est pas présente, y compris si elle est virtuelle. Et un lecteur a toujours à un moment donné quelqu'un à qui il va pouvoir parler de ce qu'il a lu. Ses parents, ses copains, son prof, un bénévole de lire et faire lire. Et c'est une notion, en fait, qui est encore plus fondamental qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que, moi, je redis, si on n'a personne à qui parler de ces lectures, alors à quoi bon lire ? Ça veut dire qu'il faut reprendre, il faut prendre les choses à l'envers, il faut se dire, ok, on va apprendre à lire, ok, on va lire, mais au fait, avec qui on va en parler ? Et s'il n'y a pas ça, le dispositif, il est coupé en son milieu et il est mort, et ça ne sert à rien. Et autant, je redis, autant aller faire de la randonnée, aller faire du bateau ou aller jouer au foot, c'est plus intéressant humainement. Alors c'est cette notion qu'on appelle de manière savante la socialisation, hein, qui fait que vos interventions, à mon avis, elles se situent beaucoup là, hein, dans cette dimension d'échange. Et c'est pas toujours forcément présent, ce temps où on va laisser aux enfants la parole et on va pouvoir discuter avec eux, soit de ce qu'on vient de leur lire, soit de ce qu'ils ont lu. Alors, c'est des choses qui doivent s'aménager aussi de manière particulière, mais je pense que cette manière de venir pour dialoguer avec les enfants sur la lecture, c'est venir en tant que lecteur, parce qu'un lecteur, c'est aussi quelqu'un qui parle de ce qu'il a lu et qui parle de ses manières de lire aussi. Moi, je travaille beaucoup aussi sur cette manière de lire. Où est-ce qu'on lit ? Où est-ce qu'on aime lire ? Assis dans un bureau, dans la cuisine, comme la maman de l'écrivain espagnol. Et un enfant, où est-ce qu'il aime lire et où est-ce qu'il n'aime pas lire aussi ? C'est-à-dire, c'est aussi appréhender la lecture comme un geste, comme un acte social, comme un acte quotidien. Et quand il est absent, pourquoi il est absent et qu'est-ce qu'on préfère que la lecture ? Enfin, vous voyez, c'est aussi avoir des échanges sur la lecture, c'est quelque chose... La formation du lecteur, c'est aussi ça. C'est pas seulement apprendre à déchiffrer ou apprendre à comprendre un texte, c'est aussi apprendre à vivre dans sa vie des espaces, des moments, des discours sur la lecture.
Alors, je vais donner donner la parole à Michel qui veut réagir. Après, je vous demanderai, parce qu'il va rester 3-4 minutes chacun, donc il faut que vous les choisissiez bien pour les compléter. Vous pouvez aller manger avec eux à table. Enfin, ne vous jetez pas dessus quand même. Voilà. Avec Bernard, vous n'aurez pas de truffes. Du coup, moi, je crois qu'on a bien entendu ce qui vient d'être dit. Je m'excuse, je vais parler un peu de moi. Moi, je viens d'un milieu d'abord non lecteur. Je n'ai pas lu avant 35 ans. Et je viens aussi d'un milieu où raconter des histoires, c'était prendre le risque d'en raconter de terribles. Donc, du coup, personne ne racontait rien et personne ne lisait rien. Et surtout, on n'allait pas dans les livres. Et il n'aurait pas fallu qu'on m'amène une fille qui me ressembla. Et qui parle de moi, parce qu'on m'aurait renvoyé ma propre illégitimité en pleine figure. Alors, je comprends l'idée de la métaphore de Michel, à savoir que le livre ne soit surtout pas un reflet, mais quelque chose qui prenne un détour. J'ai beaucoup aimé ce passage dans son livre. Les livres sont brûlants. Il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, surtout si elles pourraient nous aider à sortir de là où on est, parce qu'à ce compte-là, on se couperait des siens. Bon, c'est une manière de vivre la lecture et je souhaite à tout le monde de ne pas en avoir d'aussi douloureuse. Donc, la question à laquelle Michel va réagir, nous ne sommes pas des personnes immanentes, nous venons de loin, nous sommes sur les épaules de Darwin, puisqu'on parle de science. Autrement dit, nous sommes à la suite d'une humanité qui a produit des objets, qui a produit de la science, qui a produit de la littérature. Je pense, moi, qu'on ne peut pas ignorer cette chaîne et entrer dans cette chaîne pour la contester, pour la continuer. J'aimerais que vos dernières interventions aident à faire l'articulation entre vraiment ce que je vous remercie d'avoir dit, à savoir, écoutez ces lecteurs que vous avez devant vous, faites attention. Quelqu'un a dit, pourquoi vous êtes là avec ce livre? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je crois que c'est Bernard qui dit ça. Qui est cet adulte et qui est cette voix qui va prédominer pendant une demi-heure? Qui êtes-vous et qui sont-ils?
Oui, en écho à ce que vous disiez, Hervé, moi, dans ce que j'ai pu étudier, notamment dans ces ateliers développés dans des contextes difficiles, on voit à quel point les livres peuvent être des formidables supports de discussion et même de discussion sur des thèmes brûlants, encore une fois, en étant protégés un peu par le livre. Et des formidables lieux par ce biais de formation de la sensibilité et d'éducation sentimentale. Moi, j'ai assisté à des ateliers avec des garçons et des filles adolescents en Argentine dans des quartiers difficiles et c'était passionnant de suivre les discussions qu'il y avait entre eux et il y avait vraiment une formation, une éducation sentimentale. Tout ça pour dire qu'effectivement, tout à fait, les discussions, les échanges autour du livre sont une dimension très importante, à condition toutefois que l'on sache que tout n'est pas échangeable ou partageable et qu'il y a des choses où ça peut être trop chaud, trop brûlant et qu'il faut quand même être extrêmement attentif à ne pas être intrusif, notamment avec les jeunes enfants. Qu'on lance des discussions que de façon, voilà, sur un thème avec un peu de distance, mais je redoute toujours les approches où on dirait « alors qu'est-ce que tu as senti pendant que je t'ai lu ça ?» chacun a droit à son intimité, à sa vie secrète, et surtout des jeunes enfants qui n'ont pas forcément envie de dire ce qui peut toucher à leurs peurs les plus profondes. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire, bien entendu, que les discussions peuvent... On peut discuter autrement, mais c'est tout, là encore, il y a tout un art, et il y a toute une attention à avoir...
Pour terminer sur des aspects pratiques, concrets, je développe un peu ce que dit Hervé, enfin de mon point de vue, encore une fois, à travers mon expérience, sur la notion de communauté, de lecteur. C'est quelque chose de très concret, pratique, c'est-à-dire lire avec un groupe. On pourrait d'ailleurs se demander que doit être la composition du groupe. Faut-il que ce soit uniquement un groupe d'enfants du même âge ? Si on veut assurer cette transmission, ce serait peut-être mieux d'avoir des groupes avec des âges différents pour que justement les interactions entre le groupe soient plus riches, soient plus diverses et qu'on entre dans cette communauté de lecteurs. Cette communauté de lecteurs, elle n'est pas seulement horizontale, elle est essentiellement verticale, c'est-à-dire de plus âgé à plus jeune, de plus jeune et de plus jeune à encore plus jeune. Il y a eu un exemple qui était donné tout à l'heure. Donc c'est un premier aspect. Mais lire avec un groupe, c'est-à-dire c'est constituer une bibliothèque une bibliothèque est une référence commune. Je me permets de faire une expérience, raconter une expérience. Quand j'étais enseignant en sixième, je voyais des enfants qui venaient de plein d'écoles différentes, et je m'étais rendu compte que les textes que je lisais, parce que je faisais beaucoup de lectures à haute voix, je lisais des romans entiers, ces textes devenaient une référence commune qui permettait la vie du groupe. Et c'était un des moyens de constituer le groupe parce que j'entendais les enfants faire référence entre eux aux textes qui avaient été lus. C'est ça, concrètement. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, c'est-à-dire il faut que les livres qui ont été lus ne disparaissent pas. Il faut que petit à petit, d'une façon ou d'une autre, je veux dire, la caisse que vous apportez s'enrichisse des livres qui ont été lus, éventuellement des livres qui ont été apportés par les enfants, qu'on a lus ou qu'on n'a pas lus, mais dont on a parlé. Et puis, de l'expérience humaine, des photos, des moments, des activités. Tout ça, c'est extrêmement important et c'est ça qui crée la communauté. Ce qui crée la communauté, c'est le lieu. C'est la diversité aussi des approches. On peut lire à l'intérieur, on peut lire à l'extérieur. Tout ça, ça crée aussi des images de la lecture. Et plus on fait vivre d'expériences différentes par rapport avec les livres, et plus on donne des chances d'entrer dans les livres et de se constituer un rapport personnel aux livres. Je pense qu'il faut y penser beaucoup. J'ai beaucoup appris de ce que j'ai vu en Allemagne. Et par exemple, j'ai vu des activités de lecture où on lit avec le mouvement. Je veux dire, on lit en mouvement, on se déplace pour lire. Alors qu'on donne à des enfants beaucoup l'image que la lecture, c'est je me tiens correctement, je ne bouge pas, je me tais, etc. Non, non, on peut lire en marchant, on peut lire, on peut écouter. Moi, je vois j'ai vu, peut-être en France, je ne l'ai pas vu, mais en Allemagne, j'ai vu des gens qui courent en écoutant des textes, donc, etc. Tout ça, c'est possible. Et, comment dire, et c'est moi je veux je veux les raviolis et la truffe, je veux les raviolis et la truffe, mais voilà, et je veux toutes, voilà, il n'y a pas qu'une seule expérience par rapport à la lecture, et la notion d'expérience est essentielle. Faire vivre des moments divers à la lecture avec des gens divers, etc.
Donc on va proposer à Alexandre Jardin de rebaptiser lire, faire lire et courir.
Par exemple, vivre et vivre.
Jacques Bouvresse, il fait une frontière entre le texte et le hors-texte. C'est assez intéressant, c'est un petit peu binaire, mais quelquefois les choses binaires sont intéressantes, au moins le temps qu'on les utilise. Et il dit faut pas s'enfermer dans le texte, il faut aussi prendre en compte le hors-texte. Et il dit qu'il y a des périodes historiques en France où le hors-texte était une véritable hérésie, notamment dans les années 60, 70, avec tous des mouvements intellectuels où il fallait parler que du texte, et du coup on oubliait un petit peu que le texte parlait du monde. Et c'est quelque chose d'intéressant, je crois, dans les interactions, dans les moments que vous vivez, de faire entrer le hors-texte aussi. Le fait d'apporter aussi des témoignages personnels par rapport à une histoire, ou le fait de parler d'autre chose, moi ça me semble intéressant. Dans ce qu'Ivan a présenté ce matin, il y avait des points de vue un petit peu radicaux aussi sur le fait de est-ce qu'il faut lire exactement le texte tel qu'il est écrit, notamment. Moi je trouve que c'est toujours un petit peu radical. Il y a peut-être des moments où pour vous c'est intéressant de lire un texte exactement parce que il vous semble bien fonctionner pour vous dans votre voix et dans le moment, mais moi dans les formations je propose vraiment d'être très très libre avec les textes, avec tous les textes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous ne voulez pas être libre ?
Alors on n'a pas le temps d'engager le débat, mais c'est
non,
bien...
mais de... Mais je dis que de la même façon que on peut avoir de l'indépendance vis-à-vis d'un texte, y compris quand c'est pour l'adapter aussi à de jeunes enfants, parce que moi je crois beaucoup aussi je crois beaucoup aussi au fait de lire à des jeunes enfants des textes qui ne sont pas censés être pour eux, hein, mais qu'ils peuvent comprendre. Donc ça leur permet aussi de se faire une culture d'histoire qui va anticiper un petit peu sur leur âge, parce que les prescriptions d'âge sont un petit peu enfermantes. Et de la même manière, je trouve que le médiateur de la lecture doit se sentir aussi libre de pouvoir, y compris peut-être, venir sans livre ou sans texte. On peut aussi raconter des histoires, les mains vides. Et ce que je trouve très intéressant, alors tout le monde n'est pas conteur, et c'est quelque chose de mais bon, il y a aussi des formations.
Le débat arrive dans une minute.
Mais calmez-vous. Je sais qu'il y a pas mal de formations de conteurs aussi dans les formations de lire et faire lire. Moi, je trouve ça... Non ? Pas dans le Sud ? Mais on parle aussi de littérature orale. Et j'aime bien cette expression parce que ça montre aussi... Alors, quand on n'a pas de texte ou de livre entre les mains, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on regarde les enfants dans les yeux. Et on est, du point de vue de la relation, dans quelque chose de très important. Vous savez, c'est comme ces gens qui vous parlent et qui ne vous regardent jamais dans les yeux, c'est terrible ça. Hein, on en connaît tous un petit peu. Et être avec des enfants, c'est aussi les regarder dans les yeux et vivre un moment de relation qui soit un moment fort. Hein. Alors après, peut-être que la lecture vient accompagner, il faut qu'elle accompagne au mieux cette relation-là, mais le plus important et la première chose, c'est la relation qui se passe. On voit beaucoup d'animations en lecture où il n'y a pas de relation, où il n'y a pas de dialogue. Non, mais je parle aussi dans d'autres contextes que les vôtres, y compris à l'école, y compris chez les bibliothécaires qui font leur travail de lecture et où rien ne se passe. Hein. Alors, je ne suis pas en train de caricaturer, mais c'est important d'être très attentif au dialogue, à la relation qui se met en place. Et c'est là que la lecture doit arriver. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein, et c'est toujours un peu compliqué parfois de vivre des moments de lecture et on se dit qu'il ne se passe rien finalement. Donc c'est encore une fois, là, pour revenir aussi, la lecture, ce n'est pas magique à tous les coups. Hein, donc il faut prendre aussi que parfois les choses par un autre bout.
Très bien, je remercie. Merci Hervé. Je remercie Hervé d'avoir apporté ce qu'on ne voit pas assez dans les échanges avec les enfants du dissensus. Voilà, donc loin du consensus, c'est Michel Foucault, je crois. Hein, j'ai des lettres, moi aussi. J'ai mis du temps, mais j'en ai. Alors, donc, c'est sur cette impression dissensuelle qui est pour moi le propre des échanges. Il faut qu'on se dispute, hein, mais c'est un art, la dispute. Hein. Voilà, parce que forcément, on a été un peu bouleversés. Alors, qui veut prendre la parole au début ? On va essayer de voir si vous avez un interlocuteur particulier ou les trois, et puis on va essayer de faire des réponses courtes. Merci. Alors, on va vous donner un micro. Elle est là, la dame. Et j'ai vu l'autre dame là-bas.
Le lecteur... Pourquoi est-ce qu'il s'interdirait parfois de devenir conteur ? Il ne faut pas qu'on ait non plus des disputes d'intégristes, parce que je sentais des remous. Moi, ça m'est sûrement arrivé une fois de changer un mot. Pour autant, je suis scandalisée que sur un livre qu'on a emprunté, un lecteur, et là c'était un instit en fait, qui avait barré le mot pour le remplacer par le sien. Mais on a parlé de souvenirs de lecture et on est ici un certain nombre de bénévoles ayant dépassé 60 ans et je voudrais rapporter le souvenir d'un billet que j'ai lu, ça fait au moins 40 ans. C'était un billet de Robert Escarpite dans Le Monde à l'époque et Robert Escarpite racontait que sur la grande place de Marrakech, il avait eu l'occasion de s'approcher pour goûter un moment magique où un conteur tenait sous le charme, autant que le charmeur de serpent à côté, il racontait, et il racontait en arabe, et il y avait de plus en plus de gens qui venaient l'écouter. et pendant qu'il racontait, il tournait discrètement les pages d'un roman photo. Alors, je ne sais plus si c'était Nous deux ou Intimité. Mais il n'empêche que ça fonctionne, la magie de ce qu'on a à transmettre.
Très bien. Attendez. J'ai l'impression que Hervé a un peu répondu à ça. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus ou... Oui.
Oui, très court. C'est-à-dire, diversité, pluralité, dynamisme. C'est-à-dire, ne nous enfermons pas dans un modèle de lecture. Effectivement, ne soyons pas intégristes. Proposons, regardons autour de nous. Il y a plein de façons de transmettre la littérature. Ne pas s'enfermer, c'est aussi, je veux dire, ne pas se figer. Je veux dire, n'être pas, être absolument certain que ce qu'on fait aujourd'hui, on le fera demain. Et moi, j'ai lu, j'ai abordé Oliver Twist dans les réductions de la collection Hachette. Ça faisait 100 pages, et Les Misérables, pareil. Mais je pense, j'ai entendu Muriel Bloch raconter l'Odyssée, des fragments de l'Odyssée, c'était fantastique. J'ai vu en Italie, un comédien et un musicien raconter des pièces de Sophocle à des adolescents. Ils ne les lisaient pas. Donc il y a plein de formes. Encore une fois, l'important, c'est cette pluralité, cette diversité dans l'échange.
Michel ?
Moi, c'était juste par rapport à ce que vous disiez, Hervé, du regard important dans le fait de compter. Voilà. Alors, c'est vrai que le regard, c'est très important quand on compte. Ceci dit, moi, ce qui me semble important, c'est qu'il n'y ait pas un rapport duel. Je m'explique. La psychanalyse nous a quand même appris que les relations humaines ont une tendance à être un peu carnassières. Et que pour qu'elles soient un peu moins carnassières, c'est bien qu'il y ait du tiers. Alors le tiers, ça peut être le livre qu'on lit. Le tiers, ça peut même être, on l'a vu quand je lisais l'histoire, les souvenirs de la jeune Argentine, c'était ce qu'elle imaginait que sa mère avait lu ça dans le trésor de la jeunesse. Bon, le tiers, c'est le livre que le conteur de Marrakech avait là. C'est parfois, le livre n'a pas forcément besoin d'être présent là, mais c'est quand on sent que l'histoire qui est contée vient d'un ailleurs, qu'il y a de l'autre. Voilà. Et ça me semble important, que l'enfant ne pense pas que toutes ces histoires incroyables et souvent renvoyant à des dimensions extrêmes, monstrueuses, etc., etc., ne viennent pas de la seule fantaisie de la personne qui est là, qui est du tiers. Moi, c'est la seule chose, d'une façon ou d'une autre, qui me semble peut-être ouais. Importante.
Très bien. Alors, la personne... Si vous levez les doigts, vous les levez très haut, parce que je vois... Donc, on essaye de faire des questions courtes.
Ça marche ? Ah. Bon, j'ai deux choses, deux petites interventions qui sont un peu marginales. D'une part, je voudrais dire à Madame Petit que dans son travail d'anthropologie et de recherche, il y a un travail à faire, qui a peut-être été fait d'ailleurs dans les prisons françaises auprès de certains jeunes qui se sont mis au rap. Et ça s'est fait autour de l'apprentissage de la lecture. Je n'en sais pas plus. Mais c'est très intéressant de voir comment on est passé de l'apprentissage de la lecture et du goût des mots au slam, à ces choses-là. Hein. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous sommes dans un pays encore chrétien. Et une des grandes représentations que l'on peut voir en visitant les églises, c'est justement la représentation de la transmission de la lecture et du livre. Sainte Anne et la Vierge Marie, entre ces deux femmes, la Vierge toute petite, Sainte Anne maman, il y a le livre. Et je veux dire, en fonction des sculpteurs ou en fonction des peintres, en fonction des auteurs de vitraux, les représentations sont extrêmement variées et tout à fait passionnantes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Une deuxième. Non, ça va. Merci beaucoup. Il y a un monsieur qui est là. Deuxième. Et qui est après derrière. Voilà.
Il y avait une question là.
Il y a un monsieur qui est là. Voilà. On va prendre un monsieur un peu quand même. On va prendre un peu.
Je suis lecteur depuis plusieurs années et il y a quelques années, j'ai entrepris de nettoyer mon grenier. Comme ça, c'est mieux ? Bien. J'ai entrepris donc de nettoyer mon grenier et j'ai trouvé deux livres, les contes de Perrault et les fables de La Fontaine, qui avaient été imprimés et qui m'avaient été offerts pour mes 6 ans alors que je commençais à lire. Et puis ces bouquins, je m'en suis servi, puis après ils ont fini. Et je les ai sortis et je me suis dit, tiens, si je montrais ça à mes jeunes auditeurs d'aujourd'hui. Et alors j'ai été surpris. Naturellement, j'ai présenté les livres. J'ai dit ce qu'il en était. C'est les livres sur lesquels j'ai appris à lire quand j'avais 6 ans. Et alors là, les enfants ont eu un respect pour ces livres. Mais alors, j'en ai été suffoqué. Et j'ai pu lire une ou deux fables, pas plus, un ou deux contes, pas plus. Et les enfants étaient suspendus à mes lèvres. Je n'en revenais pas. Et puis, l'année suivante, dans le même grenier et au même moment, j'avais trouvé aussi un recueil de textes français sur lesquels on travaille quand on est au collège. Et puis dedans, il y avait des contes de Perrault. Et j'en ai lu un. Non, ça ne les a pas intéressés. C'était un livre banal, sans illustration, dans lequel Pierre n'avait pas trempé quand il était enfant. Et bien, et maintenant, je le relis des contes de Perrault, dans des éditions modernes que j'ai recherchées. Ce n'est pas facile de trouver des éditions modernes avec un texte d'aujourd'hui. Ben oui, ils lisent ça, je leur lis ça, ils sont contents. Je dis, mais pas spécialement, quoi, comme la plupart des livres. Quoi. Mais quand je ressors chaque année, au troisième trimestre, quand je ressors mes deux bouquins que je lisais quand j'avais 6 ans, je vous assure, ce ne sont plus les mêmes enfants. Ils sont passionnés. Mais ce n'est pas une question, c'est un sujet de réflexion.
Alors, il y a la dame qui est là, je suis désolée, on va essayer de faire...
Une là-bas. Il y en avait une là.
Que pour moi, ce témoignage renvoie à la dimension autobiographique de la lecture. Et c'est intéressant aussi d'essayer de faire ça avec des enfants, mais y compris avec vous, se dire un livre, c'est raconter comment il vous est arrivé, le livre. Hein, c'est-à-dire, on voit ça chez les enfants aussi, quand on leur fait faire des carnets de lecteurs, on leur demande de dire comment il est arrivé. Alors, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est Noël, c'est un copain, ou bien il n'y a pas vraiment... Mais trouver aussi comment le livre fait son cheminement jusqu'à vous, c'est aussi ça la lecture. Et ce que vous avez fait aussi, je pense que les enfants ont senti l'épaisseur de l'histoire, qu'il y avait la profondeur, donc c'est quelque chose qui saisit aussi, qui donne au livre un poids qui dépasse le texte, qui est encore plus fort à cause de ça, et ça vient du coup l'enrichir.
Je suis désolée,
Juste un mot en écho à ce que disait monsieur sur le respect qu'ils avaient pour ces livres que vous aviez trouvés dans votre grenier. Donc, ça me faisait penser au travail d'une femme qui s'appelle Anne Zali, qui travaillait à la Bibliothèque nationale de France avec des incunables et qui présente ces incunables à des adolescents de quartiers sensibles, comme on dit, qui ont a priori assez peu de rapport aux livres. Et ça se passe toujours très bien. Ils sont très intéressés, très touchés. Très respectueux des textes, très touchée d'imaginer que ce livre existe depuis tout ce temps. Enfin, elle fait naturellement vivre ce qu'elle leur montre, et ça marche très bien. Et la matérialité du livre a là toute son importance, ce qui nous ramène d'une certaine façon à la question du corps que vous évoquiez tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, il y a la dame qui est là.
Là, oui, là.
La dame qui est là-bas, parce qu'elle lève le doigt depuis longtemps. Prenez le micro, ça sera plus... Ah, ben, ça y est, madame, c'est...
Non, mais c'était une
question à Monsieur Bernard Friot plutôt, parce que pour avoir un petit peu des détails techniques peut-être sur la suite de l'expérience dont il nous a parlé, quand chaque enfant apportait le livre qui lui tenait à cœur, je suis très intéressée par ça parce que c'est une façon d'entrer en relation avec les enfants. Que faites-vous après de ces livres ? Parce que le livre un peu girly qui vous ennuyait, qu'est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que vous ne l'avez pas lu à tous les enfants ? Est-ce que c'est juste une information ?
Il y a chaque fois une histoire qui se crée. Il y a chaque fois une histoire qui se crée. Et je veux dire, l'important pour les enfants, d'abord, c'est de pouvoir parler d'eux dans le groupe, c'est-à-dire qu'on les écoute, qu'on les reconnaisse comme personnes à travers un rapport au livre, à travers une histoire pour le livre. Et après, c'est chaque fois une histoire différente qui demande une réponse différente. Je pense à ce petit enfant. Lui, il avait, je veux dire, un livre de la lecture, de la littérature légitime, parce qu'il avait apporté le journal d'un chat assassin. Et alors, pourquoi il avait apporté le journal du chat assassin, donc à l'école des loisirs? Parce que c'était son maître qui lui avait offert lorsqu'il était à l'hôpital. Et je lui ai demandé, tu l'as lu le livre? Il m'a dit, pas encore. Mais je veux dire, là, c'est l'occasion de le lire. S'il veut, est-ce que tu veux qu'on le lise tous ensemble? Pourquoi il ne l'avait pas lu, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce livre, il l'avait sur la table de nuit, etc. Je veux dire, et le livre, il n'avait même pas besoin d'être lu pour avoir un poids, une reconnaissance, etc. Mais c'est lié à une histoire tout à fait personnelle. Donc, à chaque moment, c'est une histoire différente. Je donne un autre exemple. Il y avait un enfant qui avait apporté un picsou. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Bon. Et là, je lui demande, je demande d'où vient le livre? C'est la première question. Comment tu l'as eu? Et voilà qui me répond, je l'ai acheté sur une aire d'autoroute. Et là, je lui dis, je suis perdu, je ne sais plus quoi dire. Et j'ai été inspiré par le dieu de la lecture et j'ai posé la question, mais t'en as d'autres? 300, qui me dit. Mais pas du tout. Et alors, évidemment, à part de là, je me suis aperçu qu'il avait une pratique culturelle, celle du collectionneur, qui partageait avec son frère aîné. Il m'a expliqué comment il les avait. Il faisait des échanges, regarde sur Internet, il fait les vide-greniers, etc. Et là, je veux dire, il ne s'agit pas de lire Picsou, mais c'est de reconnaître, et d'abord de lui faire reconnaître qu'il a une pratique culturelle savante, celle du collectionneur. Et qu'est-ce qui se déclenche? Il y en a qui disent, moi je collectionne les Mickey. Et voilà, et tout ça, ces pratiques sont ignorées, bien sûr, de l'école, de l'instituteur. Et voilà, je veux dire, à chaque fois, il va y avoir une réponse, et l'important, c'est ce qui se déclenche.
Oui, alors simplement, moi je m'adresse dans la lecture beaucoup à des adolescents, 15-22 ans, même jeunes adultes. Et je pense qu'il y a une notion qui n'apparaît peut-être pas trop dans ce que vous dites, et qui est une notion de liberté du lecteur et de celui qui reçoit la lecture. Dans la mesure où nous avons, j'en parlerai bientôt, ça se passe dans une clinique psychiatrique. Nous avons la possibilité de tout lire. Nous avons ce choix-là, cette possibilité. Mais c'est vrai que parfois, on a une certaine crainte de la manière dont ça peut être reçu par le jeune. Et je pense que ce qui est très important en tout début de lecture, c'est de créer ce climat, comme vous le disiez tout à l'heure. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse accorder un peu de temps, parce que je pense que lire et faire lire, c'est aussi s'adresser à des adolescents, puisqu'ils sont scolarisés. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire par rapport à ça, sur ces choix de lecture et de... Voilà, bon, simplement une petite remarque que je voulais faire. Merci.
Alors après, à gauche, on n'a pris aucune réaction. Alors peut-être la première.
Non, il y avait quelqu'un. Il y avait la dame.
Ici, là, il y a quelqu'un. Ah oui, là-bas.
Juste un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. En tant que bénévole et en tant que un petit peu coordonnatrice de bénévoles, on est souvent confronté aux évocations des réactions du lecteur quand les enfants apportent des livres. Et moi, je retiens bien la piste de les faire parler du livre. Ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment une très bonne piste, parce que lire le livre, il y a des fois où... personnellement, j'arrive pas. Et si je n'éprouve pas de plaisir, je suis à côté de mon rôle. Donc ça, c'est mon témoignage. Et ensuite, par rapport à ce qui a été dit au niveau de la verbalisation autour du livre, pour moi, c'est presque aussi important que la lecture, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un vrai échange. Et que le lien se crée. Ça peut être soit après un conte africain, des enfants dont deux maghrébins un Marocain, un Tunisien, qui n'avaient aucune idée de l'Afrique, de la localisation géographique, donc une discussion à partir d'une carte sur le mur, ça fait partie de quelque chose. Et ils y sont revenus en me demandant des livres sur d'autres parties de l'Afrique, des choses de ce genre. Donc là, il y a eu vraiment un début d'échange. Ça peut être aussi des fois à partir d'un mot, une lecture sur un arc-en-ciel où certains enfants ne savaient pas ce que c'était. Et en plus de ça, dans le groupe, il y avait une petite fille qui s'appelait Iris. Donc la fois d'après, j'ai cherché quelque chose pour rebondir dessus. Donc je ne sais pas si je suis hors contexte de lire et faire lire, j'en sais rien, mais c'est ma pratique et c'est mon vécu et c'est mon plaisir aussi. Donc je pense que c'était juste ce que je voulais dire.
Moi, je voulais juste donner deux anecdotes par rapport à l'image que les enfants ont de la lecture, peut-être. Alors, la première, en tant que maman, ma fille entre dans la pièce où je lis et elle me dit, ben, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je lis. Mais pourquoi tu fais pas de bruit ? Donc, l'espèce de renvoi de la lecture... Bon, on lit à haute voix aux enfants, mais... Ben, elle n'avait pas perçu qu'on pouvait aussi lire pour soi et du coup, effectivement, on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Alors la deuxième anecdote, c'est l'enseignante que j'étais avait dans sa classe de grande section le gamin de la copine collègue. L'année d'après, le gamin fait sa première journée de CP, il rejoint sa maman à l'école le soir. Je vais le voir, alors, ta première journée de CP, il me dit, ben, on n'a pas appris à lire. Et là, bon, c'était un peu un échec pour moi parce que je n'avais pas fait passer le message que ben, apprendre à lire, c'est long, il y a tout un apprentissage. Et que quand il était dans ma classe de grande section, on commençait déjà à apprendre à lire.
Oui, alors ce n'est pas une question, mais j'ai beaucoup pensé au cours de cette rencontre à une pièce de théâtre dont j'avoue avoir oublié l'auteur, mais qui a écrit une trilogie Forêt, Littoral et Incendie. Et dans une de ces pièces, donc l'action se passe au Liban et les villages sont complètement détruits. Et on voit arriver sur scène une femme avec une cargaison de bottins. Elle traîne des bottins derrière elle et c'est tout ce qu'elle a trouvé pour faire vivre les gens qui ont disparu dans ces villages parce que les noms sont répertoriés dans ces bottins. Et elle va les traîner et ils vont les lire en groupe, ils vont lire les bottins et ils vont se les transmettre. Et je trouve que ça rejoint vraiment la communauté dont vous parliez, Monsieur Moello, ou la transmission et cette lecture qui est passage, en fait. Voilà, c'est tout.
Ça me rappelle, moi j'aime bien les petites disputes entre les gens. C'est pas facile hein, quand même de vivre ensemble, hein, c'est compliqué. Et j'étais l'autre jour chez une amie qui est grand-mère et qui passe pour être une des meilleures enseignantes de maternelle, elle est réputée, et pour une mère exceptionnelle. Voilà. Donc, et donc elle est grand-mère, vous imaginez ? Bon, donc elle va essayer de prendre le pouvoir un peu sur la maisonnée et sur son petit-fils. Il se trouve que le petit-fils est un petit peu tendu, on ne sait pas pourquoi, et qu'il est constipé. Cette femme qui est brillante, enfin franchement, moi elle m'a toujours étonnée de trouver des idées avec les enfants. Elle lui dit, ben écoute, on va aller sur les toilettes. Et puis comme elle sent que ça va pas venir, elle dit, on va lire un truc, voilà. Et elle lit le journal du Conseil général. Mais ils habitent un petit village. Je vais pas dire lequel parce que vous allez vite les trouver. Il y a 15 habitants. Et là, elle me dit, je lui dis, mais tu lui fais lire, enfin quand même, il a 4 ans et tout. Elle me dit, mais on connaît tout le monde. On connaît le maire, on connaît la Lulus, on connaît machin, on connaît ça. Bon, et donc le petit s'est soulagé. Mais c'est pas si simple. Arrive le père, qui est le gendre, oui, tout le monde va bien. et qui doit comprendre que la grand-mère est en train de prendre un petit peu des choses en main dans la famille et qui dit « je déteste qu'on lise aux toilettes ». Et donc, voilà, je voulais dire ça par rapport à ses écrits, parce que moi, j'aurais jamais fait lire le journal du Conseil Général, et en même temps, c'est là, dans les petits villages, qu'on connaît tout le monde, quoi. Les gens, on a des choses à dire. Vous vouliez réagir ? Excusez-moi, hein, mais c'est... Madame, là-bas, et puis d'abord ici, et vous. Ah ben ça y est, ça se réveille à gauche, là.
Je voulais simplement témoigner, et puis revenir aussi sur la question de la mise en réseau, parce qu'on ne l'a pas tout à fait évoqué, mais ça me semble être une vraie question sur le rapport du lecteur à l'auteur et de l'auteur au lecteur. Tout d'abord, le témoignage, c'est un auteur de théâtre pour la jeunesse, Stéphane Jauberti, que j'ai entendu la semaine passée et qui disait, à mon sens très justement, j'écris sur moi, tu lis sur toi. Enfin, ça fait écho à ce que nous disait Bernard Friot, me semble-t-il. Et je crois qu'il faut quand même que dans les pratiques de lecteur, on y pense à cette notion de quand on lit sur soi. Et puis, la question de la mise en réseau, ce serait peut-être de... Justement, ces petits bouts de bonhommes la font assez naturellement quand ils sont dans des lectures partagées et variées. Mais peut-être qu'il faudrait aussi donner quelques tuyaux à nos lecteurs pour qu'ils s'autorisent ces mises en réseau.
Juste une chose, toi, moi, et ça fait nous.
Oui, c'est cette question du choix des textes à travailler aussi, y compris dans vos formations. Moi, j'aime bien aussi travailler avec cette idée que les enfants puissent choisir aussi la lecture qu'on va leur faire, et notamment par ces fameuses, parce que Ivan est là, présentations de livres en réseau. C'est intéressant aussi de présenter aux enfants plusieurs livres, mais plusieurs livres, ça peut être deux livres, hein, et de leur dire, ben voilà, dans ce livre-là, il va y avoir ça, il va y avoir ça, puis dans l'autre... qui va être en lien aussi, il peut y avoir autre chose. Et le temps aussi de lecture aux enfants, ça peut être aussi un temps qui peut démarrer par des mises en réseau entre des albums qui sont proches, hein, ou qui vont, pardon, vous connaissez les différentes versions des contes, par exemple, ça se multiplie beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais ça peut être intéressant pour les enfants de se dire, moi j'ai envie, voilà, j'ai envie soit d'une bonne version classique du Petit Chaperon Rouge, ou bien d'une version un petit peu fantaisiste, et les présentations... Le fait de présenter les livres aux enfants avant, ça leur permet à la fois de faire ces fameuses relations entre les textes et aussi de développer, là, du coup, leur capacité de choisir, de se dire voilà, qu'à chaque fois, ce ne soit pas toujours le lecteur qui choisisse le livre. Alors, il ne faut pas faire ça à chaque fois. Hein. Tout est à faire là, de diversité aussi dans vos manières d'intervenir, mais cette notion-là de mise en réseau des textes me semble aussi une piste assez riche.
Alors, alors moi, je lis en crèche. Donc, je rebondis tout de suite sur l'histoire du choix des livres. Je leur permets de choisir chacun leur tour le livre qu'ils veulent que je lise. Puis ensuite, bon, on fait un petit atelier par terre, etc. Donc, première chose. Ils choisissent, et il y a l'histoire du tour aussi, c'est mon tour, etc. Donc, voilà. Deuxième chose. À 2 ans, ils sont très curieux des histoires. Tournent la page. Je veux savoir ce qu'il y a après. Ils ont envie de connaître l'histoire et la fin de l'histoire. Quand ils grandissent, on a l'impression qu'ils perdent cette curiosité. Alors, je pense aussi qu'il y a une question d'apprentissage parce que certains sont dyslexiques. On n'a pas parlé de tout ça, mais il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à lire. Ils aimeraient bien, mais ils n'arrivent pas. Donc quand on bute sur les mots et qu'on ne peut pas lire vite, on s'ennuie très vite et on se fatigue très vite. Troisième chose, à 2 ans, ils ne verbalisent pas. Donc, ils ne peuvent pas, on ne peut pas savoir non plus ce qu'ils ont compris ou pas. Et on peut aussi, je crois, prendre des libertés par rapport au texte, parce qu'il faut aussi aller un petit peu plus loin, parfois, quand ils sont tout petits. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez très vite la question ? Ah bon, alors on ne l'ouvre pas tout de suite, je vous remercie pour cette abnégation. Je vais demander aux 3 intervenants, parce que vraiment ils ont été... voilà, moi je ne me suis pas ennuyée, j'ai trouvé que c'était bien une phrase ou une chose qu'ils aimeraient... D'accord ? Donc on, voilà. Donc on va demander à Michel.
Moi j'ai beaucoup parlé, donc je vais pas. J'ai beaucoup de temps, donc je vais pas. Non, juste une chose, je ne sais plus en écoute, ça marche.
Oui, mais il y a une panne, c'est pas grave. Magali ?
Celui-ci, oui, ça voilà. Donc oui, juste une chose, c'est que aussi quand on lit à des enfants ou des adolescents, peut-être toujours penser qu'eux peuvent à leur tour devenir des médiateurs pour d'autres, pour des enfants plus jeunes. Ça a été évoqué un peu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée en Amérique latine, où les gens ont toujours l'idée, les médiateurs ont toujours l'idée de former, trouver des médiateurs, des multiplicateurs, comme ils disent. Ils lisent à des enfants qui, à leur tour, vont lire pour d'autres, etc. Alors, tous ne vont pas devenir multiplicateurs, mais quelques-uns vont, et ça fait son chemin, et ça continue. Juste c'est cette idée-là pour retrouver cette chaîne.
Merci.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est... Je veux dire, la réflexion sur le choix, la capacité, développer la capacité de choix. Le but ultime, c'est de former des lecteurs autonomes, c'est-à-dire c'est les lâcher sans nous. Et il faut les armer très tôt, parce que, n'oublions pas, surtout par rapport aux adolescents, on n'est pas, les adultes ne sont pas des médiateurs crédibles. Donc c'est très tôt qu'il faut leur donner des repères dans la lecture, et transmettre la lecture, c'est transmettre un ensemble de gestes, c'est pas seulement un intérêt, mais un ensemble de gestes, le plus important étant de trouver parmi un ensemble de livres le bon livre pour moi au bon moment. Donc il faut pas oublier tout ça, c'est pas seulement une formation au texte, c'est formation à une pratique sociale complexe. Et encore une fois, diversité, des approches différentes, des moments différents, tout ça, ça permet à un enfant de grandir comme lecteur, et après, ben, on peut le lâcher.
Alors, on va demander. Alors, je vous remercie. Donc, moi, je suis chargée du compte rendu. Je n'ai pas pris de notes parce qu'on m'a assuré que des gens prenaient des notes. Donc, j'espère que ça a bien été fait. J'essaierai d'être assez exhaustive. Je pense que je vais me suivre. Pas les raviolis, mais Rustica, peut-être. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'humus, avec Jean-Paul Sartre, où on a dit que finalement, le livre ne restait pas intact dans notre souvenir, mais qu'il se diluait, qu'il se mélangeait à même à d'autres choses qui n'étaient pas forcément de la lecture. Michel Petit dit dans son livre qu'il faut trouver une autre scène. Le livre est une autre scène où on peut rejouer des histoires. On a senti aussi l'importance du désir, de votre désir. Si vous êtes désirant, les enfants, ben, je crois qu'ils attrapent vite cette chose-là, d'odeur, de parfum. Voilà, on a quelque chose, une atmosphère autour des livres, du grenier, etc. Vous avez dit des choses où Pierre a trempé. Voilà, et ben voilà, les choses où Pierre a trempé, les enfants ont envie de les écouter. La deuxième chose dont je parlerai, c'est de cette culture. Alors écoutez, je ne suis pas très douée en culture, mais où on ne plante pas des choses avec des racines qui montent et qui se développent, mais des choses qui se développent sur la verticalité, des rhizomes, qui sont chers à Deleuze. Autrement dit, construire ces réseaux, ces choses qui vont circuler, lectures différentes, changer les genres et donc cultiver du rhizome. Et puis, Michel Petit, je ne sais pas si elle en a parlé ce matin, mais elle en parle dans son livre, elle dit que la lecture, c'est l'art de la cabane. Voilà, il faut se fabriquer des cabanes. Alors, Hervé, c'est la personne que je connais qui fait le plus appel au corps, au bricolage, aux petits carnets, aux petits écrits, parce qu'il dit que les enfants ont besoin de réinvestissement extrêmement rapide. Donc, dans les cabanes, on met des trésors. Et moi, je me souviens avoir entendu Jacques Arduano, un ancien prof de fac, qui était magnifique avec Guy Berger. Ils avaient des amphis de 800 personnes. On leur donnait un mot et toute la... 3 heures durant, c'était incroyable. Et un jour, je suis venue lui dire « Mais comment vous faites ?» Et il me dit « Ah !» C'était Ramin Agrobi un peu. C'était, voilà, il était un peu gros, il avait des petits yeux comme ça. Et il m'a dit « Ah, mademoiselle, vous voulez devenir comme moi ?» Alors j'ai dit bah oui, voilà, je trouvais que ça prétentieux. Il m'a dit alors soyez subtil et subtilisez-moi tout ce que vous pourrez. Voilà, je vous conseille de subtiliser tout ce que vous avez pu entendre ce matin, de le détourner, de rester vous, en sachant que nous venons d'ailleurs et que nous sommes aussi dépositaires d'un patrimoine qui ne se limite pas qu'à la France mais à l'Europe. On va finir avec un poème. Vous allez d'abord regarder une image. C'est pas grave. Alors, vous la regardez bien, chacun va se demander que raconte cette image. Puis on va regarder de plus près. Et on va se demander, première image, est-ce qu'elle est triste ? On y va. Triste sans savoir pourquoi, parce que c'est comme ça, ciel gris, nuage bas, quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle est fatiguée d'avoir suivi toute la journée les trois vaches maigres qu'elle a menées paître dans le pré de l'autre côté de la forêt ? On reste sur cette image, Magali, parce que l'autre image n'a pas été mise, excusez-moi. Est-ce qu'elle a peur des coups qu'elle recevra quand elle rentrera à la maison, gifle, taloche, tape sur les doigts, quand la mère s'en revient épuisée des champs, quand le père sort assoiffé de la fabrique, les coups remplacent le dîner. Est-ce qu'elle rêve ? Cet après-midi, elle a croisé la vieille Anna qui sortait du bois, portant un panier plein d'herbes et de fleurs sauvages. Anna s'est assise à côté d'elle, pas longtemps, 10 minutes à peine, et lui a raconté le conte de la gardeuse d'oie. Une princesse trahie par sa femme de chambre, un cheval qui parle, un troupeau d'oies, un prince qui découvre le secret. Et tout finit bien. Alors c'est normal, elle rêve, elle imagine, et déjà elle est moins triste, moins fatiguée. Je crois pouvoir dire que grâce à ce que nous venons de vivre ensemble et à Bernard Friot, à qui appartient ce poème, on va donner la fin. Peur, ça oui, nous avons encore peur, mais un peu moins que tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie. On va mettre l'image du livre. Voilà. Donc, c'est peinture pressée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon appétit. N'oubliez pas la photo. Et puis, bravo d'être aussi nombreux et d'être aussi disponibles. Merci.
Voilà, alors vous allez sur la petite place qui est juste entre cette salle et le restaurant et on va prendre la photo traditionnelle de vous tous. Ensuite, donc le déjeuner à 12h30. À partir de 13h30, dans cette même salle, dans le fond de la salle, il y a deux tables sur lesquelles Michel Petit et Bernard Friot dédicaceront leurs ouvrages. Donc de 13h30 à 14h, vous pouvez venir ici pour la dédicace de vos ouvrages. Et par ailleurs, on vous l'a dit, l'atelier photo vous attend jusqu'à jeudi soir pour vous faire vos portraits avec vos livres préférés si vous les avez avec vous. Merci, bon appétit.